Anne de Guigné n'a pas été un héros, comme le père Damien qui soignait les lépreux. Elle n'a pas converti des foules, comme saint François. Elle n'a pas sauvé des malheureux, comme saint Vincent de Paul. Elle n'en a pas eu le temps, puisqu'elle est morte avant d'avoir 11 ans. En ce mois de juillet 1915, une jeune femme voit arriver 2 officiers. Elle a compris. Le lieutenant Guigné est tombé au champ d'honneur à la tête de sa compagnie. Toute la nuit, ces mots terribles résonnent dans la tête de la jeune veuve. Ses 4 enfants sont des enfants sans père. Le lendemain, dans la pièce où la jeune femme s'est réfugiée pour pleurer, Anne, sa fille, s'approche timidement. Dans la tête de Madame de Guigné, tout s'entrechoque. La mort du héros, les soucis domestiques. Et cette enfant, si vive, si intelligente, mais tellement désobéissante, orgueilleuse, jalouse, capricieuse. Si au moins ses colères pouvaient cesser. La maman caresse les cheveux de sa fillette et murmure « Anne, si tu veux me consoler, il faut être bonne. » À partir de cet instant, elle s'y efforce, sans répit, avec l'acharnement d'une enfant de 4 ans et demi, s'appliquant à d'innombrables sacrifices, à table, au travail, dans les jeux. On se souvient de la fête de Noël 1913, elle a 2 ans. Anne est si capricieuse et si insupportable que son grand-père, à qui elle tient tête, ne peut s'empêcher de répliquer « Je plains sa pauvre mère quand elle aura 20 ans ». Quelques années plus tard, ce sera pourtant la même petite Anne qui viendra apporter aux sœurs, à Cannes, un gros paquet dans lequel elle a soigneusement emballé les petits soldats de plomb. Et nous savons ce que représentaient ces jouets pour elle. Au milieu de sa détresse, Madame de Guigné assiste au surprenant combat spirituel d'une enfant passionnée qui ne veut plus rien refuser à Dieu. Par moments, pour quelques broutilles, un jeu auquel Anne ne peut participer, une sucrerie qu'on lui refuse, la mère voit la petite fille devenir subitement rouge de colère, serrer les poings. Mais Anne maîtrise toujours son caractère emporté, elle l'a promis. Peu à peu, les crises s'espacent et bientôt son entourage a l'impression que tout lui est agréable. Son institutrice constate, elle aussi, cet irréversible et radical changement. Je n'ai jamais vu Anne revenir en arrière. C'est la grâce qui faisait tout, et elle suivait le mouvement de la grâce. Et plus elle donnait, plus le bon Dieu lui rendait, et plus Anne redonnait encore. Les mois passent. En 1917, Mgr Chapon, évêque de Nice, découvre sur la liste des candidates à la première communion une enfant qui n'a pas encore 6 ans. Il refuse qu'on l'admette. On insiste, on supplie, il se laisse alors fléchir, mais exige un examen sévère. Pendant une demi-heure, il l'interroge. Saisi par les réponses de l'enfant, il se rend à l'évidence. « Madame, dit-il à sa mère, non seulement elle est prête, mais je souhaite que vous et moi soyons toujours au degré d'instruction religieuse de cet enfant. » Déjà, le combat d'Anne touche à sa fin. Frappée d'une méningite, elle est forcée de s'aliter. Elle répète sans cesse « Jésus, je veux tout ce que vous voulez ». Aux invocations que l'on fait pour son rétablissement, elle ajoute « Guérissez aussi les autres malades ». Anne de Guigné meurt, elle n'a pas 11 ans. Anne a transformé ses gestes de sacrifice en offrande. Elle leur a donné la dimension de l'amour. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur de la souffrance. C'est l'absolu de l'amour. Elle disait « On a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent pas. Celle qui dure, c'est d'avoir fait un sacrifice. »